un encouragement. Donc merci à tous pour votre aide, vos prières pour ce ministère parmi les enfants et dans la société. Et si vous connaissez des gens qui seraient intéressés éventuellement par une école privée, eh bien, n'hésitez pas, nous accueillons encore des enfants. La deuxième chose, c'est que l'année aussi s'est terminée pour les cours d'hébreu. Donc c'était super, il y en a qui ont apprécié. On a fait une belle fête, vous avez peut-être vu sur mon profil Facebook les photos, on était plus d'une cinquantaine, il y a 5 niveaux de groupe. La majorité des gens présents, c'était des élèves, j'allais dire, et puis il y avait quelques conjoints, et on a vécu un bon moment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en septembre, on reprend. Donc je reprends encore de nouvelles personnes cette année. Je vais réorienter un petit peu, jusque-là je faisais des cours d'hébreu biblique, je vais réorienter plutôt maintenant vers les cours d'hébreu, je faisais des cours d'hébreu moderne, pardon, c'est-à-dire la langue qui est parlée en Israël en ce moment, et cette année, l'an prochain, je vais un peu réorienter pour adapter à la lecture de l'hébreu biblique, puisque j'ai pris des cours cette année pour ça, et donc ça va permettre d'aller plus loin. Donc si vous êtes intéressé, début septembre, mi-septembre, on va reprendre des cours d'hébreu et les novices sont accueillis à bras ouverts et on rigole bien. Donc je disais, si je devais résumer le message de ce matin, un verset le ferait parfaitement, celui qui est affiché. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Voilà, donc vous avez le résumé, donc peut-être on peut s'arrêter là et aller voter, puisque c'est un jour important aujourd'hui. Mais non, on va quand même prendre un petit peu de temps pour ce matin contempler la beauté de Dieu et plonger un peu nos regards dans le magnifique mystère des relations entre le Père et le Fils. Pourquoi ai-je dit que ce verset de Jean 3 résume parfaitement mon message ? Parce que lorsqu'il est dit que le Père aime le Fils et qu'il a remis toutes choses entre ses mains, avec cette parole on commence à saisir qui est le Père par rapport au Fils et qui est le Fils par rapport au Père. Et on voit qu'à un certain niveau, il n'y a pas d'interchangeabilité entre le Père et le Fils et entre le Fils et le Père. On y reviendra tout à l'heure. On voit aussi dans ce verset que la base du lien et de la relation entre le Père et Fils, c'est l'amour. Et c'est très important, l'amour entre le Père et le Fils. Même si ce ne sera pas spécifiquement mon sujet ce matin. Alors, l'idée ce matin, ce n'est pas non plus de faire de la théologie de haut vol et d'approfondir le mystère de ce que les pères de l'Église ont appelé la Trinité, même si dans mon partage, il y aura quelques notes théologiques. Une note particulièrement, peut-être que je n'expliquerai pas forcément, mais qui sera destinée aux spécialistes. Et puis, l'occasion nous sera peut-être donnée l'an prochain, en 2025, parce qu'en 2025, c'est une année particulière, on va fêter les 1700 ans du Concile de Nicée. Le Concile de Nicée, je ne sais pas si ça vous parle, pour ceux à qui ça ne parle pas beaucoup, c'est le... Alors... Voilà... Le Concile de Nicée, en fait, c'est le premier grand rassemblement international, pour employer des mots d'aujourd'hui, d'évêques, qui s'est réuni à Nicée, une ville dans l'actuelle Turquie, à la demande de l'empereur Constantin, et c'était en l'an 325, donc 2025, ça fera 1700 ans. C'est lors de ce concile qu'ont été jetées les premières bases du credo. Le credo, même si on ne le récite pas dans notre église, les grandes églises historiques le récitent, nous on ne le fait pas, mais ça reste la base, la confession de foi que professent les chrétiens du monde entier et qui en gros trace la ligne de démarcation entre la foi orthodoxe et droite, ce qu'il faut croire, et les hérésies, c'est-à-dire les fausses croyances, notamment concernant le Père et le Fils, mais aussi l'Esprit. Alors, revenons vers les Écritures. J'ai choisi de lire ce matin, je m'attache à la lecture de mon texte parce que je ne veux pas être trop long, parce qu'il est... Donc je vais commenter, mais je vais quand même rester un peu collé à mon texte. J'ai choisi de lire ce matin des textes qui nous parlent de la nature du Père et de la nature du Fils. Car si les deux sont unis dans la même substance, nous dira le credo, c'est pour ceux qui parlent grec, c'est homoousios. S'ils sont unis dans cette même substance, ils sont aussi distincts en tant que personnes. Et là, en grec, on dit les hypostases. Ça, vous pouvez l'oublier, tout ça, hein, sauf si vous avez envie de faire du grec aussi. Mais... Et c'est très important, cette même substance des personnes divines et cette personnalité différente. Ces personnalités différentes qui doivent se refléter dans notre piété. Ça paraît très théorique pour le moment, mais en fait, ça touche de très près à notre piété, à la façon dont nous parlons de Dieu, la façon dont nous l'imaginons, la façon dont nous prions, et aussi dans nos chants d'assemblée. Commençons par parler du Fils. J'ai choisi l'une des plus belles paroles de l'apôtre Paul concernant le Fils, que l'on trouve dans Colossiens 1. Rendez grâce au Père. Alors, vous dites, mais tu parles du Fils, et que ça commence par dire rendez grâce au Père. Ce n'est pas un hasard. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, de nouveau, on retrouve cet amour pour le Fils. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. On vient de partager la Sainte Cène. Il est l'image du Dieu invisible. Qui est Jésus ? Qui est le Fils, plutôt ? Avant de parler de Jésus, parce que le Fils existait avant que Jésus naisse sur terre. Qui est le Fils ? Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Paul n'avait plus de mots pour décrire. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu, sous-entendu le Père, a voulu que toute plénitude habitât en lui. Le Fils. Quand Paul, dans les Épîtres, dit Dieu, en fait, il veut dire le Père. Il veut dire le Père. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le Fils, par lui, par le sang de sa croix. Waouh! Quel texte ? Ce texte suffirait à faire 2 heures ou 3 heures d'enseignement, de message, de partage et surtout de louange. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus va dire un jour, celui qui m'a vu a vu le Père. Non pas que Père et Jésus sont la même chose, on va voir, on va en parler, mais celui qui voit Jésus voit quelque chose du Père, voit le Père. Il nous est dit qu'il est le premier-né de toute la création, qu'il est avant toute chose. Au concile de Nicée, les pères de l'Église vont dire « engendré, non pas créé ». Ça contre les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent « mais vous voyez, il est le premier-né de la création, donc le Fils est une créature ». Mais il n'est pas dit qu'il est le premier créé de toute la création. Il est dit qu'il est le premier né. La façon dont, je vais employer des mots humains, le Fils est apparu, je mets des guillemets pour ceux qui entendent le message sans voir, je mets des gros guillemets, mais la façon dont le Fils est apparu, c'est par un engendrement. Quelque chose de difficile à comprendre. Jésus, quand je dis Jésus, je m'excuse, je reviens au Fils, parce que c'est bien avant l'apparition de Jésus sur la terre, est apparu, entre guillemets encore, avant la création. Il n'est pas une créature. Donc c'est compliqué ça de dire un engendrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus va dire un jour, je suis sorti du Père. Saint Thomas d'Aquin va employer parfois, pour essayer de faire comprendre à ses lecteurs, le mot émanation. Mettre des mots humains sur une réalité invisible et hors du temps, c'est compliqué. Mais ça nous aide déjà à nous faire des images mentales, des compréhensions de qui est le Fils et qui est le Père. Et ça s'est produit quand ? Avant le temps. Il était avant toute chose. En fait, le temps dans lequel nous vivons, nous on est habitué à y vivre parce que c'est notre milieu, c'est notre bain. Un petit peu comme si on vivait dans l'eau, un poisson qui vit dans l'eau, ben, c'est son milieu, il comprend, il sait comment ça marche. Nous, il y a un avant, il y a un présent et il y a un après. Et tout fonctionne comme ça. Et nous sommes complètement façonnés comme ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne connaît pas le temps. Enfin, il le connaît parce qu'il l'a créé. Et l'espace et le temps sont des créations de Dieu. Mais c'était avant le temps. C'est déjà bizarre de parler comme ça, parce que de dire avant, on est déjà dans un schéma de temps. Vous voyez ? Mais c'était avant le temps, parce qu'il faut bien employer des mots, qu'il y a eu un engendrement. C'est pour ça qu'on appelle cet engendrement un engendrement éternel, parce que c'est hors du temps. C'est dans l'éternité. Mais quand on parle d'éternité, on parle aussi du temps. C'est-à-dire l'éternité, c'est le temps qui dure toujours. Mais là, c'est autre chose. Hein ? Et donc là, je vous parle comme si j'essayais d'expliquer à des poissons qui vivent dans l'eau ce que c'est que vivre à l'oxygène, à l'air. Là, le cerveau, il ne suit pas. Mais c'est pareil, nos cœurs suivent et comprennent. En lui, en Jésus, dans le Fils, ont été créées toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Le Fils a été l'agent de la création, et non seulement l'agent de la création, puisqu'il est la parole, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez, hein, la parole était avec Dieu, et cette parole, Dieu dit, au commencement, Dieu dit que la lumière soit, etc., et la création se déroule. Le Fils est la parole de Dieu. Donc si le Fils est l'agent de la création, il est aussi le soutien de la création. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par un truc impossible, le Fils disparaissait, la création disparaîtrait aussi. Tout subsiste parce que c'est pas parce que Dieu a créé puis il est parti et puis il a tout laissé. Non, non, tout existe, la création encore existe parce que c'est soutenu par Dieu. Et si Dieu choisissait comme ça de tout arrêter, eh bien tout s'arrêterait, il n'y aurait jamais eu de création, il n'y aurait plus de création. Donc le Fils est le soutien de la création. Ce texte nous dit aussi qu'après son incarnation, donc là on peut parler de Jésus, il a fait l'expiation par son sang. Il est le premier-né des morts, c'est-à-dire il nous précède dans la résurrection. Il est le chef de l'Église et toute plénitude habite en lui par la volonté de Dieu. Toute plénitude habite dans le Fils parce que Dieu l'a voulu ainsi. Je vous propose maintenant qu'on dise quelques paroles sur le Père. On va prendre encore des paroles magnifiques de Paul. Dans 1 Timothée 6, verset 13, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Et puis Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Là, il est question du Père. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Le Père nous est décrit dans ce verset, dans ces versets, comme celui qui donne la vie à toute chose. C'est de lui que vient la vie, du Père. Et Paul encourage Timothée à être fidèle, etc., à vivre une vie digne de Dieu, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus va revenir. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. L'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps qui ? Le Père. Le bienheureux. C'est le Père qui est maître du timing, lui qui est hors du temps. C'est le Père qui est maître de ce moment où l'apparition de Jésus va se faire. Jésus disait, nul ne connaît le jour ni l'heure, même pas le Fils. Ça appartient au Père, même pas au Fils. Il nous est dit ensuite que ce Père habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Difficile d'imaginer le Père. Les hommes ont parfois fait pour le matérialiser, le visualiser, un vieux barbu sur un nuage, etc. C'est une erreur majeure. Le Père n'a pas de forme, le Père n'a pas de corps. Le Père, c'est quelque chose là aussi, c'est un petit peu comme parler à des poissons de l'air. Le Père est totalement différent. Une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. En Matthieu 11, 27, il est dit « Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Incroyable, personne ne connaît le Père. Seul le Fils connaît vraiment le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et je crois que le Fils veut encore nous révéler son Père. À qui appartiennent honneur, l'honneur et la puissance éternelle, c'est au Père qu'appartiennent d'abord l'honneur, la puissance, la louange, la sagesse, la richesse, etc. Amen. Je voudrais vous faire remarquer maintenant ce que disent nos deux textes comparativement au Père et au Fils. Du Fils, il est dit, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Et du Père, il est dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il y a une grosse différence, là vous le voyez. Il y a deux choses identiques, tout a été créé par lui et pour lui. C'est à la fois dit pour le Fils et pour le Père. Mais du Père, il est dit, c'est de lui. Comme s'il y a en amont de la création, il y a une source. Cette source, c'est le Père. Le Fils est présenté comme l'agent et le destinataire de la création. Le Père est présenté comme l'agent et le destinataire de la création, mais aussi comme la source, l'origine ultime, y compris du Fils. C'est entre autres cette dimension qui va faire dire à Jésus en Jean 14, 28 « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Dans le sens où le Père est la source. C'est aussi pourquoi Jésus va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donné par qui ? Par les hommes qui ont voté à majorité, par le Père. Oui, le Fils a tout pouvoir reçu du Père. J'ai pas noté la référence là, mais en Matthieu 11, 27, il est dit aussi « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Et aussi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus a le nom au-dessus de tout nom, ce nom devant lequel tout genou fléchira, les gentils comme les pas gentils, un jour. Ce nom du Fils, il lui a été donné aussi par le Père. Et tout ça, que le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, c'est-à-dire même dans le monde des ténèbres, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Je vous lis aussi dans 1 Corinthiens 15. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, c'est-à-dire au Fils, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises au Fils, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Incroyable. Tout lui a été soumis. Mais Paul fait une parenthèse. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Alors que tirer de tout ça ? Que lorsqu'on décrit ou parle du Fils dans les Écritures, cela renvoie toujours au Père. Toujours. Le Père qui est la source et qui est sa source. Ainsi, je pense, et on va petit à petit aller dans le concret, c'est important que notre christocentrisme ne devienne pas, dans notre piété concrète, un christo-exclusivisme. Je le redis cette phrase pour un peu... C'est important que notre christocentrisme essentiel ne devienne pas, dans notre piété pratique, un christo-exclusivisme. Et parfois, je crois que le Père est notre grand absent de notre piété. Le Père doit toujours être en arrière-plan quand le Fils est devant. Si ce n'est pas au premier plan. Alors l'idée est-elle de diminuer le Fils, sa dignité, sa gloire ou sa nature divine, qui serait inférieure ? Loin de là. Les pères de l'Église ont condamné ça. Mais l'idée, c'est que selon le modèle des Écritures, et notre base, ce sont les Écritures, de toujours exalter le Père. Toujours exalter le Père. C'est ce que Jésus n'a eu de cesse de faire toute sa vie. Son but, sa mission était de nous faire connaître le Père. Son but, sa mission, c'était de nous ramener au Père. C'était de nous faire entrer dans la communion du Père. Dans la communion du Père, à ses côtés, avec lui, avec le Fils. Lorsque Jésus parle de lui-même et de sa mission, il donne parfois des images très parlantes. À ce sujet, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Un texte qu'on connaît par cœur. Hein. Et Jésus va dire quoi là ? Il va dire « je suis le chemin ». Il ne va pas dire « je suis le but ». je suis l'objectif. Jésus va affirmer, je suis le chemin, chemin vers qui ? Quoi ? Le Père. Il le dit même concrètement, nul ne vient au Père que par moi. Et il va même aller plus loin. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Celui qui rentre dans la communion de Jésus rentre dans la communion du Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors vous l'avez vu, certains hérétiques ont dit, mais donc Jésus et le Père, c'est le même. Sauf que le Père, c'était dans l'Ancien Testament, le Fils, c'est dans le Nouveau Testament, comme une transmutation. C'est une erreur. Encore là, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il est l'image du Dieu invisible, ce qu'on a lu tout à l'heure. Alors il y a bien d'autres textes. Jésus va dire un autre jour, je suis la porte. Je suis la porte. Bizarre comme image, hein ? Je suis la porte. Oui, celui qui entre par moi. Quand vous entrez chez vous, vous ne restez pas à la porte. Le but n'est pas de rester à la porte, c'est d'entrer. Et c'est le but de Jésus, de nous faire entrer dans la communion du Père. Je voulais juste reprendre, parce que c'est intéressant de le lire, puisqu'on ne le dit pas dans nos églises, une partie de la déclaration du Concile de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père. Et alors là, les pères ont employé des expressions bizarres pour essayer de nous faire comprendre l'incompréhensible. Dieu de Dieu. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Vous voyez l'idée de la source du Père qui est en filigrane, engendré et non fait, non créé, consubstantiel au Père, la même substance, par qui tout a été fait, ce qui est au ciel et sur la terre. Et qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, et viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Jésus revient. Alors, les théologiens ont du mal à parler de hiérarchie au sein du modèle trinitaire. Père plus grand, et je ne parle pas de l'esprit encore, hein. J'ai volontairement laissé l'esprit de côté parce que ce serait encore plus complexe. Mais voilà, parler d'hiérarchie, c'est un peu compliqué et c'est pas l'idée qui revient. Certains, cependant, vont parler de la monarchie du Père. C'est une des doctrines. C'est là où j'ai dit que j'expliquerai pas tout, hein. D'autres vont plutôt insister sur la doctrine des appropriations trinitaires. Là, les spécialistes comprennent, mais c'est pas grave. Je le cite juste en passant. Mais en tout cas, selon l'enseignement des Écritures, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y a un ordre. Ce n'est pas une hiérarchie, c'est un ordre. Il y a une connotation différente. Le Père demeure le Père, le Fils demeure le Fils. On ne peut pas intervertir les personnes. Ce qui concerne le Père concerne le Père, ce qui concerne le Fils concerne le Fils, même si forcément il y a des liens, puisqu'ils sont de la même substance. Le Père est la source du Fils. On l'a vu dans plein de textes, il y en aurait d'autres encore. Le Fils n'est pas la source du Père. Il y a un ordre. Il n'y a pas d'interchangeabilité entre le Père et le Fils. Il n'y a pas non plus de complémentarité. Un petit parenthèse sur la complémentarité. Si le Père et le Fils étaient complémentaires, ça veut dire que chacun ne serait pas unique Dieu en soi. Donc il y a pas de ils sont chacun plein, entre guillemets. Il n'y a pas de complémentarité. Mais il n'y a pas non plus d'interchangeabilité. C'est là où ça peut nous interpeller dans notre piété, dans notre approche de notre piété. Alors pourquoi on parle de tout ça ce matin ? Et quelle est la mise en pratique qui en découle ? Car certains pourraient dire, avec un arrière-plan, en arrière-plan, une mauvaise conception du modèle trinitaire. Et je pense qu'on est tous plus ou moins contaminés par cette, j'allais dire, cette mentalité grecque, cette mentalité logique, puisque le Père égale le Fils égale l'Esprit, ben, tout est pareil. Et donc je prie l'Esprit, je prie le Fils, je prie le... Ils sont Dieu, ils sont... D'accord ? Donc pourquoi, puisque le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, ben donc peu importe tout ce que tu nous racontes. Eh ben non, pas peu importe. Parce que c'est pas ce que l'Écriture fait. La Bible nous montre que Jésus n'a jamais cherché à s'approprier quelque chose qui revenait au Père. Et que lui-même, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Toujours Jésus a renvoyé vers le Père. Philippiens 2, 6, 5, je viens de lire. Il est donc important d'honorer le Père pour qui il est, pour ce qu'il est. Il est important d'honorer le Fils pour qui il est, pour ce qu'il est. Et ça, c'est très concret au niveau de notre piété. Comme je le disais au début, les personnalités divines différentes doivent se refléter dans notre piété pratique, dans la façon dont nous parlons, dans la façon dont nous enseignons, dans la façon dont nous prions et dans nos chants d'assemblée. Prenons l'exemple de la prière. Je suis dans ma conclusion là. Hein. Prenons l'exemple de la prière. Quel est le modèle néo-testamentaire de la prière ? Jésus va dire, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Avinu Sheba Shamayim en hébreu. Notre Père qui est dans les cieux. Et à la suite de cette parole de Jésus, on voit dans le reste des écrits apostoliques que les prières sont adressées à Dieu au nom du Fils Jésus et par le Saint-Esprit. Or, je remarque que parfois, nos prières sont un peu confuses à ce sujet. C'est encore plus flagrant dans un certain nombre de chants modernes, où il peut y avoir pas mal de confusion et même parfois de non-sens. On a déjà parlé avec certains leaders de louanges. Je vous donne un simple exemple qui est assez parlant et qui est tout récent d'une discussion. Un très beau chant américain récent que l'on chante, qui a été traduit, qui est plein d'envolées de louanges, qui évoque des versets de l'Apocalypse. Quand on le chante, on sent, ça évoque, pour ceux qui connaissent la Bible, on chante l'Apocalypse. Et dans ce chant, dans la mauvaise traduction française, parce que ça n'existe pas dans l'anglais, il est parlé d'un cantique à l'agneau. Vous vous souvenez ce chant ? Un cantique à l'agneau, auquel on adresse, cet agneau, les plus hautes louanges. Notamment, il est dit par exemple qu'il est le seul saint. Or, quand on va voir dans l'Apocalypse, niette, il n'y a pas de cantique à l'agneau. Il y a un cantique de l'agneau. C'est le cantique de Moïse et de l'agneau qui adresse les plus hautes louanges au Père. Et donc il nous est dit, on va le lire dans un instant, le cantique de Moïse et de l'agneau. Cantique de Moïse, c'est toute la première alliance qui chante au Père. Et le cantique de l'agneau, ben c'est le cantique que l'agneau nous apprend à chanter. C'est son cantique à lui qui va vers le Père et qui représente toute la nouvelle alliance. Alors en chantant ce chant, on a l'impression de chanter le texte biblique. Or, on ne chante pas le texte biblique. Voire même, on tronque. Alors, j'ai employé un mot parce que je n'avais pas trouvé, donc je le trouve un peu trop fort, mais on falsifie le texte biblique. Mais le mot est fort, hein, mais si vous en trouvez un mieux, un peu moins fort. Parce que falsifier, ça sous-entend qu'on veut falsifier, en fait, qu'on fait du faux, ce qui n'est pas le cas. Parce que bien sûr, c'est sans doute involontaire. Et il n'y a pas mort d'homme. Et je crois que Dieu regarde d'abord au cœur quand on chante vers lui. Tout ça, amen, c'est vrai. Mais il me semble que pour honorer Dieu, nous devons être vigilants sur l'expression de notre piété et rester dans les clous, dans les bornes de l'Écriture. Alors on peut le lire, ce magnifique passage. Et je vis comme une mer de ver mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de ver ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ?» Éternel, entre parenthèses, hein. Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Alors, j'allais dire, ne révolutionnons pas tout dans notre piété et notre mode d'expression. Commençons pas à couper les cheveux en quatre, c'est pas l'objectif. Mais je nous encourage à être attentifs, en particulier à tous nos réflexes. On a l'impression que c'est acquis, et en fait, c'est pas forcément acquis. Et je pense que ce magnifique chant, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est porteur de force, et de si on le chante machinalement, on va dire, ouais, on chante l'Apocalypse, soyons prudents. Et c'est pareil dans tous nos réflexes quotidiens. Comment je prie, quelle est ma piété, comment je parle de Dieu. Parce que c'est important pour nous, pour chacun, pour nous ensemble. C'est important pour l'avenir de l'Église, pour nos enfants. Parce que si on glisse sur un certain nombre de choses, vous savez que la pente glissante, elle continue, elle ne s'arrête pas. Et que la petite erreur d'aujourd'hui devient une grosse erreur demain. Mais c'est d'autant plus important, et vous y connaissez ma sensibilité, quand on témoigne de l'Évangile, notamment aux musulmans et aux juifs, qui pour lesquels, hein, quand on parle, on y met des égalités. Alors que l'Écriture est plus explicite, plus nuancée. Donc faisons attention à nos réflexes, à nos automatismes, dans notre façon de parler, de prier, d'évangéliser. Je vous propose de finir par un instant de prière. Peut-être on peut se lever ? Notre Père, on a parlé de choses qui nous dépassent complètement. Les Écritures, avec les mots et les mots traduits en français, essaient de nous donner une notion, un aperçu, un flash sur ta grandeur, sur ton immensité, sur ton amour. Oui, notre Père, tu es la source. Tout découle de toi. Avant les temps, tu as engendré le Fils. Tu l'as envoyé sur terre, dans le temps, dans la création. Par lui, tu as tout créé. Et Seigneur, notre Père, nous voulons être des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, oui, Seigneur, on est charismatique et on veut adorer en esprit. Mais Seigneur, aussi en vérité, selon l'Écriture. Seigneur, notre Père, merci pour tant de bonté, tant d'amour. Merci parce que, j'allais dire, toi qui es d'un autre monde, qui n'est pas de la création, tu as choisi de te révéler à nous par le Fils. Et par le Fils que nous suivons pas à pas en tant que disciples de Jésus, eh bien nous marchons vers toi, notre Père. Seigneur, c'est un bonheur incroyable. Et quand le Fils va venir, va revenir, quel privilège de pouvoir te voir, notre Dieu, de pouvoir entrer dans une dimension encore nouvelle de communion avec toi. Et Seigneur, nous nous réjouissons et nous joignons nos prières à l'Église du monde entier pour dire, oui, nous attendons le Fils, qu'il vienne, au nom de Jésus. Amen.